vous suit.
Voici les titres du journal.
C'est l'information de la matinée. Le Lausanne Hockey Club, lanterne rouge de National League, se réorganise. Directeur des opérations hockey du club vaudois, Petr Svoboda, est démis de ses fonctions et remplacé par l'actuel entraîneur John Foust. Nouvelle exposition, la médiathèque Vallée-Martini. Impact, c'est son nom, interroge les rapports entre humains et environnement naturel. L'opération En Famille au Musée se déroule ce week-end sur la Riviera. 10 institutions ouvrent leurs portes à cette occasion. Et puis en cyclocross, le Valaisan Gilles Mottier courra à Namur dimanche. Il y disputera ses 3e championnats d'Europe.
Et pour la météo, des averses sont à prévoir cet après-midi. Et puis on commencera le week-end sous les nuages avant le retour du soleil. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Justin Gray. Bonjour Justin.
Bonjour. Le Lausanne Hockey Club fait le ménage en coulisses. Lanterne rouge de National League, le club vaudois qui fête son 100e anniversaire en 2022, a décidé de revoir son organigramme. Julien Traxel, vous avez assisté ce matin à la présentation de cette réorganisation.
Il était temps de taper du poing sur la table. Patrick Depreux, président du LHC, et son équipe ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Alors que la première équipe est en pleine crise, il fallait du changement. Petr Svoboda s'est ainsi retiré de son poste de directeur des opérations hockey. Il est reproché à l'ancien joueur tchèque des problèmes d'ingérence et de gouvernance, ce qui serait à la base de la situation très difficile que traverse actuellement le club vaudois.
Petr Svoboda n'est donc plus à la tête des opérations sportives, mais il ne quitte pas le LHC pour autant.
Non, il reste bien présent dans le club en tant qu'actionnaire minoritaire. Se pose ainsi la question de savoir si son retrait sera bel et bien effectif ou si cette annonce a surtout pour but de faire redescendre la pression. Quoi qu'il en soit, cette décision communiquée ce matin a des répercussions très directes. La direction sportive est reprise par l'actuel entraîneur du Lausanne Hockey Club, John Foust.
Nouveau poste pour le Canado-Suisse. Mais Julien, est-ce qu'il reste l'entraîneur du LHC ?
Mais non, sa première mission en tant que nouveau directeur sportif sera de se trouver un successeur sur le banc. Alors il œuvrera toujours à la bande ce soir contre le CP Berne et demain à Genève. Le nom du nouveau coach lausannois sera annoncé dans la foulée, donc d'ici dimanche. Le nouvel homme fort du LHC aura ensuite la période de la trêve internationale pour prendre ses marques et tenter de relancer le LHC. Relancer le LHC, le véritable mot d'ordre du jour. Mais est-ce que ces mesures vont suffire ou alors le mal est-il plus profond dans la capitale olympique ? La question est évidemment dans toutes les têtes en ces temps de crise. La crise sans doute la plus difficile depuis le retour du Lausanne Hockey Club dans l'élite en 2013.
Merci beaucoup pour ces précisions. Julien Traxel, on précisera que Lausanne sera sur la glace ce soir pour tenter de mettre fin à une série de 6 défaites consécutives. Les Vaudois accueilleront le CP Berne à 19h45 à Malais.
Dans l'actualité régionale, Impact, quelle est notre empreinte ? Les photos témoignent.
C'est le nom de la nouvelle exposition de la médiathèque Vallée-Martini qui sera inaugurée demain. Elle invite le public à s'interroger sur son rapport à l'environnement à travers un dialogue entre images d'archives et photographies de 10 artistes internationaux contemporains. Le support audiovisuel peut en effet permettre de véhiculer de nombreux messages selon l'experte scientifique de l'exposition, Eva Médraud.
Je pense que beaucoup, en fait, on peut faire passer probablement tout autant, voire plus de messages qu'avec des textes, parce que la photo, c'est visuel, c'est universel, il n'y a pas de barrière de langue. On peut l'interpréter de notre point de vue ici en Suisse, mais on peut aussi l'interpréter culturellement et avec un autre historique quelque part au Pérou. Et une photo, ça vient toucher les émotions des gens, donc ça parle différemment, et je pense que ça complète vraiment le message, les faits, les chiffres qu'on a tendance à être envahi par toutes ces informations à l'école, dans les médias, à la télé. Et du coup, les images, ça vient porter vraiment porter un sens, porter une émotion et laisser un peu le cérébral de côté pour aller toucher plus le ressenti des gens.
3 espaces de médiation ont aussi été installés dans l'espace de l'exposition. Un aménagement dédié à la réflexion. Sylvie Fournier, commissaire de l'exposition.
Les espaces de médiation sont des endroits aussi assez importants. On invite le public à réfléchir, déjà à faire une sorte de quiz sur leur consommation pour voir un petit peu est-ce qu'on consomme beaucoup, peu, etc. par rapport au reste de l'ensemble des visiteurs. Mais aussi, on leur demande de réfléchir aux solutions pour l'avenir, pour essayer de voir que l'intelligence collective, en tout cas les idées mises ensemble, peuvent peut-être être très importantes et faire changer les choses. Et puis, on les invite aussi à la fin à s'engager à faire des efforts et à choisir quels sont les efforts qu'ils sont prêts à faire.
L'exposition Impact se tiendra jusqu'au 22 avril 2023 à la médiathèque de Martigny. Un sujet signé Thierry Nicolet.
Les musées de la Riviera renouvellent ce week-end l'opération En Famille au Musée.
10 institutions ouvrent leurs portes aux familles et proposent différents ateliers afin de se plonger autrement dans l'univers muséal. Lancé à l'automne 2000, le concept permet de partager un moment convivial tout en découvrant de nombreuses techniques de création lors de ces ateliers. Fanny Abbott, directrice conservatrice ad intérim du musée historique de Vevey.
Le but, c'est de venir un peu se faire plaisir et de découvrir des choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Et des fois, on est un peu surpris parce que certains lieux nous paraissent compliqués ou bien peut-être donnent l'impression d'être des fois... Je sais pour travailler dans un musée d'histoire que des fois on trouve que les musées historiques c'est un peu poussiéreux, etc. Mais ça vaut quand même des fois la peine de pousser les portes et de venir voir parce que c'est là que des fois on a des très très jolies surprises et qu'on découvre des choses qui nous font du bien, qui nous font voyager, que ce soit dans l'imaginaire ou dans le réel, voire dans le temps.
À noter que les ateliers sont tous complets, mais les habitants de la Riviera peuvent tout de même découvrir gratuitement les musées partenaires de l'opération et membres de l'Association des musées de la Riviera. On retrouve Fanny Abbott.
Le but de cette association, en fait, c'était de proposer aux gens des activités de médiation culturelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Tous les musées proposent énormément d'activités pour tous les types de publics. Mais dans les années 2000, quand cette association s'est formée, ça n'était pas le cas. En fait, c'était les débuts de la médiation dans les musées. Et En Famille au Musée était un événement assez précurseur, on pourra dire, et qui, dans sa forme, n'a pas beaucoup évolué depuis lors, puisque le but, c'est vraiment... axé sur la famille. Donc, c'est pas des ateliers destinés aux enfants. Les parents sont vraiment partie prenante de l'activité, doivent aider, doivent même des fois eux-mêmes réaliser certaines parties. Et le but, c'est de se donner un petit moment pour se retrouver en famille dans nos institutions.
C'était un sujet préparé par Xavier Bourgeot. On reste sur la Riviera puisque Vevey retrouve sa foire Saint-Martin. Après 2 ans d'absence, la ville accueillera à nouveau cet événement emblématique mardi prochain 8 novembre. Organisé par la confrérie de la Saint-Martin sur le thème des retrouvailles, cette 551e édition réunira comme de coutume plusieurs centaines de marchands au cœur de la cité. Par ailleurs, un cortège au flambeau proposé lundi soir dès 18h en marge de la traditionnelle veillée du bœuf sous la grenette.
Le canton de Vaud ouvre une hotline liée au risque de pénurie d'énergie.
Les objectifs sont de permettre à la population de contribuer à la réussite de l'effort commun et de renforcer l'impact des mesures prises par les autorités. Dès le 8 novembre, l'état-major cantonal de conduite répondra aux interrogations, questions et demandes du lundi au vendredi de 8h à 18h au 058 611 11 71 ou par email à penurie.hotline@vd.ch. La police a arrêté 2 trafiquants de drogue britanniques à l'aéroport de Zurich. Âgés de 43 et 57 ans, ils transportaient chacun une cinquantaine de kilos de cat dans leur bagage. Les 2 hommes sont arrivés mercredi en provenance de Johannesburg. Ils entendaient poursuivre leur voyage à destination de Francfort, mais les policiers les ont arrêtés suite à un contrôle.
À l'international, visite controversée aujourd'hui à Pékin.
Le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré le président chinois Xi Jinping. Il lui a demandé de faire jouer son influence sur la Russie afin qu'elle mette un terme à sa guerre d'agression. Le dirigeant allemand a également appelé, depuis Pékin, le président russe Vladimir Poutine à ne pas refuser la prolongation de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiens, un accord qui doit expirer le 19 novembre. Un peu plus à l'est, les tensions montent encore d'un cran à Séoul. La Corée du Sud a annoncé avoir déployé aujourd'hui des avions furtifs après avoir détecté 180 avions de combat nord-coréens. Depuis quelques jours, Séoul et Washington conduisent des exercices conjoints de la péninsule. Des exercices aériens prolongés jusqu'à demain après le tir apparemment raté d'un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord hier matin. Ces exercices figurent parmi les plus importants jamais réalisés avec des centaines d'avions de guerre impliqués de part et d'autre. Pyongyang a déclaré que la prolongation de ces exercices était, je cite, « un choix très dangereux et mauvais ». On revient au sport, en uni-hockey. Le titre mondial se joue dès demain à Zurich et Winterthur. Jusqu'au 13 novembre, les 16 meilleures nations de la planète vont s'affronter à l'occasion des 16e mondiaux de l'histoire. Parmi les équipes favorites, on retrouve la Suède, la Finlande et la République tchèque, sans oublier la Suisse. Si la discipline n'est pas la plus représentée du pays, son équipe nationale peut jouer les premiers rôles, d'autant que l'ensemble des rencontres se tiennent du côté alémanique, berceau du sport en Suisse. Depuis plusieurs décennies, la Romandie est aussi montée dans le train sans toutefois pouvoir organiser de grands événements masculins. Dans le Chablais, les Eagles UHC Aigle fêtent leurs 30 ans d'existence en 2022. Club pionnier de la région, sa présidente Stéphanie Roth est revenue sur ce rush Tigramon encore bien présent.
Oui, pour les championnats du monde hommes, effectivement, il n'y a jamais eu d'organisation suisse romande. Comme vous le disiez, on en reviendra, mais il y a 2 ans, championnat du monde féminin à Neuchâtel. Donc moi, je rêve qu'un jour, Lausanne, pourquoi pas Genève. Genève peut-être est un peu moins implantée aussi dans l'Union Hockey. Donc Lausanne, allez, soyons fous, rêvons d'organiser ces championnats du monde, bien sûr.
Alors vous n'êtes pas dans l'organisation des mondiaux, évidemment, hein, mais obligé de vous la poser. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer une ville suisse-allemande, une ville suisse-romande pour unifier finalement le pays autour de ce même sport ?
J'imagine que oui, parce qu'il y a énormément de clubs en Suisse romande qui organisent déjà énormément d'événements du New Hockey. Donc oui, on aurait peut-être pu rêver à avoir une date, une partie de l'organisation sur la Suisse romande.
L'UHC Aigle et ses membres seront sans nul doute les premiers supporters de l'équipe de Suisse lors des mondiaux. Des mondiaux qui se tiennent, on vous le rappelle, du 5 au 13 novembre à Zurich et Winterthur.
En cyclo-cross, la première grosse échéance de la saison est prévue dimanche pour Gilles Mottier.
L'athlète de Collonges représentera la Suisse aux championnats d'Europe qui se tiennent à Namur en Belgique ce week-end. C'est la 3e fois que le Valaisan se frottera aux meilleurs spécialistes du continent. Il s'agira en revanche de sa dernière participation en tant que semi-professionnel. Encore employé à 30% en tant qu'ingénieur, le coureur de 25 ans a décidé de sauter le pas. Il arrêtera en effet son activité au début de l'année prochaine et tentera de se consacrer totalement à sa passion. Gilles Mottier.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que depuis que j'ai fini mes études à l'école d'ingénieur de Sion, j'ai diminué petit à petit mon temps de travail, donc 50% au début, ensuite 30%. Et puis, c'est vrai que fin février, je vais passer le pas d'arrêter complètement de travailler et puis vraiment de mettre toutes les chances de mon côté pour vraiment profiter pendant une année et demie et puis voir comment ça se passe et puis essayer de passer ce dernier palier vers le professionnalisme, quoi. Vu qu'actuellement, voilà, même si notre équipe a le statut professionnel, pour ma part, je me considère toujours comme semi-professionnel dans le sens où je ne suis pas salarié et puis que je travaille à côté. Mais voilà, le but, c'est vraiment de s'approcher de ce statut de professionnel et puis de mettre toutes ses chances de côté, quoi.
Et ce statut professionnel, il est généralement associé à la question financière, puisqu'évidemment, c'est le nerf de la guerre. À ce niveau-là, c'est une prise de risque, hein, on le disait aussi, d'arrêter complètement de travailler, de tenter sa chance. Mais c'est aussi l'idée de ne pas avoir de regrets pour la suite. Mais ça passe par quoi, finalement, de tenter sa chance en arrêtant de travailler? Ça cherche en recherchant des sponsors? C'est beaucoup plus de prospection? Comment ça va se passer pour vous?
Je dirais qu'on a bien bétonné le terrain avec des amis proches qui forment le comité de mon fans club. Donc ça, on a mis en place il y a une année. Maintenant, on a à peu près une centaine de membres. Donc c'est une organisation qui tourne et puis qui rapporte des sous qui actuellement, pour l'instant, sont plus en prévision justement de cet arrêt. Je dirais que de ce côté-là, c'est cool parce qu'on a vraiment aussi une petite sécurité financière qui permet en tout cas de faire le lien au début pendant quelques temps. Et puis avec les cotisations qui tournent chaque année, ça devrait permettre aussi de s'assurer un petit salaire si je ne vais pas recevoir de salaire purement pour le vélo dans les prochains mois ou la prochaine année. C'est vrai que c'est aussi une année, donc je me dis une année et demie, c'est pas non plus un trop gros risque dans le sens où voilà, j'ai fait le parcours que je voulais avant, j'ai mon papier d'ingénieur et un métier qui me plaît énormément, donc si tout devait mal se passer, je sais que je retirerais sur mes pieds et puis que j'aurais pas de regrets de ce côté-là, quoi.
Gilles Mottier répondait à Ludovic Turin. Dimanche, Gilles Mottier représentera donc la Suisse pour la 3e fois de sa carrière en championnat d'Europe. Une épreuve qui se tient à Namur, en Belgique, berceau du cyclo-cross.
L'actu en continu, radiochablais.ca.